France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Cette semaine, nous parlons du présent qui est si difficile à saisir et à penser. Aujourd'hui, Hegel et l'enjeu du présent. C'est avec Hegel, au XIXe siècle, que le présent a été désigné comme l'objet même de la philosophie. D'autres philosophes s'étaient intéressés à leur présent, en particulier Emmanuel Kant, au XVIIIe siècle, qui avait cherché à définir l'époque des Lumières. Mais avec Hegel, quelque chose se radicalise et se précise. Seul le présent est frais, tout le reste est terne, dit-il dans ses cours sur l'esthétique. C'est que pour Hegel, le présent porte en lui la trace du passé tout en le réélaborant, et ainsi il ouvre des possibles pour l'avenir. Ce travail, pourrait-on dire, qui se déroule dans le présent, est quelque chose de très important à ses yeux, car Hegel considère que la rationalité traverse l'histoire et qu'en fait la rationalité est elle-même historique, si bien qu'elle progresse de concert avec le progrès de l'histoire. Dès lors, la question cruciale est celle-ci, vers où pourrait aller le présent? Quelle rationalité va sortir de lui? Pour Hegel, le philosophe ne saurait rien penser de plus important que cela. Cette vision du présent qu'avait le philosophe Hegel soulève évidemment de nombreuses questions. J'ai donc le plaisir d'accueillir deux spécialistes de l'œuvre de Hegel. Bonjour Jean-François Kervégan.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite de philosophie de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous avez notamment traduit et présenté pour les presses universitaires de France les principes de philosophie du droit de Hegel, livre très important de 1820, qui est en particulier important pour l'enjeu du présent. Vous avez aussi publié avec Bernard Mabille pour les éditions du CNRS un ouvrage intitulé « Hegel au présent, une relève de la métaphysique, point d'interrogation ». Et bonjour Emmanuel Renaud.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie à l'Université Paris-Nanterre. L'un de vos livres paru chez Vrin est vraiment central pour notre sujet d'aujourd'hui. Il s'intitule « Connaître ce qui est, enquête sur le présentisme hegélien ». Alors je vous propose, tous les deux, pour ouvrir notre discussion, un extrait de cinéma.
Moi je me rappelle tout, je me rappelle même comment t'étais habillé. Évidemment, il y a des trucs que j'aimerais bien oublier, mais...
La mémoire, tout ça, on n'a pas besoin. J'aime mieux le présent. C'est plus excitant, le présent. J'aime bien la musique, les choses qui s'abîment. J'aime bien les fleurs.
Je pensais, tiens.
L'amour. L'amour, oui, il faut le vivre, évidemment. Il faut vivre dans le présent aussi. Parce que s'il n'y a pas le présent, c'est pas vivant, ça meurt. Ce qui est le plus important pour moi, c'est de comprendre ce qui m'arrive. Eh bien, pour comprendre ce qui m'arrive, je peux pas comprendre le présent. C'est plus fort que moi. Bien sûr, ce que j'aime, ce qui m'intéresse, c'est cette chose qui m'échappe, que j'arrive pas à contrôler dans le présent. Et c'est pour ça que j'aime ça. Si, il y a beaucoup de choses que j'ai faites dont j'ai honte. Non, j'ai eu honte après. J'ai eu honte après parce que j'avais pas su reconnaître que c'était pas bien. Mais pendant, non. Pendant le présent, non. C'est pour ça que j'aime le présent. Parce que pendant le présent, Je ne peux pas, ça m'échappe. Je ne sais pas ce qui arrive. Ça empêche de devenir fou, le présent.
C'était la douce voix de Macha Merrill, qui incarnait un personnage du film de Godard, Une femme mariée, film de 1964, Charlotte, épouse de Pierre, jouée par Philippe Leroy. Et elle dit donc, on l'a entendu, Charlotte dit, on ne peut pas tout comprendre au présent, des choses nous échappent, mais c'est ça qui compte, c'est le présent, parce que lui est vivant. Est-ce que Hegel aurait pu dire cela? Et au fond, est-ce que Charlotte, ce personnage, est philosophe, hein? Emmanuel Renaud.
Ah, je pense que oui, Charlotte, ce personnage est philosophe, ça, n'y a pas à en douter, dans sa capacité notamment à faire apparaître toutes sortes de contradictions, dont l'idée même de présent et l'idée de compréhension ou connaissance du présent est porteuse. Hegel aurait pu certainement dire que la seule chose qui l'intéresse, c'est le présent, même si pour comprendre le présent, il faut aussi s'intéresser au passé qui l'a produit. Il aurait sans doute pu dire aussi qu'il y a toujours quelque chose qui nous échappe dans le présent, parce que il y a une dimension de contingence irréductible dans toute réalité, qui pour lui vient de la nature, qui est fondamentalement contingente. Mais il n'aurait pas dit que ce qui importe, c'est ce qui échappe dans le présent. Hein, parce que il aurait au contraire souligné que ce qui importe, c'est ce qui est susceptible d'être compris de ce qui nous arrive et que nous sommes capables d'en comprendre assez pour satisfaire aussi bien nos intérêts de connaissance, notre volonté de comprendre ce qui nous arrive et également pour satisfaire nos intérêts pratiques.
Pour Hegel, ce qu'on comprend dans le présent, le comprend-on au présent ? C'est-à-dire, y a-t-il un léger décalage malgré tout ? Il y a un texte dont nous parlerons où il dit que la philosophie est la chouette de Minerve qui se lève la nuit. Y a-t-il un léger décalage temporel, au moins la nuit par rapport au jour, pour comprendre ce qui a été le plus important dans le présent ?
Oui, sans doute, mais sans doute qu'il faudrait aussi distinguer différents types de connaissances. Donc la connaissance ordinaire, la connaissance du non-philosophe, est forcément mise en échec par rapport à la profusion du présent, son aspect dynamique, les processus multiples qui sont en jeu en lui. L'ambition, je crois, de Hegel, c'est de produire une thématisation du présent qui nous permette de comprendre ce qui est véritablement en jeu actuellement. Hein, et donc ça, pour lui, et ça c'est ce qui semble très contre-intuitif par rapport à nos convictions contemporaines, eh bien c'est la philosophie de l'histoire qui est le meilleur moyen de comprendre les spécificités de notre époque et par là même aussi des tâches que nous devons affronter, des ressources qui sont également disponibles pour parvenir à les affronter de façon pertinente.
Jean-François Kervégan, comment vous lisez cette œuvre majeure qui est celle de Hegel? D'un côté, Emmanuel Renaud précise à l'instant que quelque chose nous échappe au présent, mais d'un autre côté, il nous dit que ce qui est le plus important, on va pouvoir le penser, et peut-être même peut-on le penser au présent, ce qui est presque une gageure.
Oui, enfin pour ma part, j'aurais tendance à ajouter à ce qu'a dit Emmanuel Renaud, que Hegel, s'il avait vu le film et eu à commenter le dialogue que nous avons entendu, aurait peut-être dit « oui, mais il y a plusieurs sortes de présents ».
Oui.
Ou si l'on veut deux présents. Bon, il y a le présent contingent. Aujourd'hui, il pleut, demain, il fera beau. Voilà, c'est comme ça.
Oui.
Hegel considère que tout ce qui relève de la nature, Emmanuel Renaud l'a déjà dit tout à l'heure, comporte une contingence qui fait qu'il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est, bah voilà, c'est comme ça. Mais il y a aussi un autre présent, logé en quelque sorte dans le présent contingent, dans le présent immédiat, qui est le présent ou la présence du concept, de la pensée, qui peut s'appliquer à ce donné immédiat et contingent pour en extraire une compréhension qui excède le présent dans le présent.
Donc c'est pas a posteriori, c'est vraiment pendant. Pendant le présent, on peut le penser.
Oui, mais pendant le présent et en pensant le présent, il cesse déjà d'être présent, d'où la métaphore de l'oiseau de Minerve qui prend son envol le soir, et quand le philosophe décrit un monde, c'est que ce monde est déjà en train de disparaître.
Donc quelque chose est quand même perdu au moment où on commence à comprendre. La présence du présent, si je puis dire, est un peu perdue.
L'immédiateté du présent est perdue, mais la... Alors, je dirais, non, la présence du présent n'est pas perdue si l'on admet que cette présence du présent excède le présent.
Ah. Vous êtes d'accord, Emmanuel Renaud, avec cette... C'est une très jolie formule.
Oui, mais en fait, on est un peu piégé par la multiplicité des acceptions possibles du terme présent. Hein, parce que, donc, présent, ça peut être simplement le présent temporel, l'instant fugitif. Donc... qui, dès qu'il est énoncé, a disparu. Donc ça, c'est vraiment une modalité du présent, une conceptualisation du présent qui est thématisée dans le premier chapitre de la phénoménologie de l'esprit. Quand je dis « maintenant », j'énonce quelque chose qui est déjà révolu.
Oui.
Donc il n'y a jamais de « maintenant » en ce sens. Et puis il y a le présent en un sens...
Et qui est aussi tous les « maintenant ».
Oui, qui est aussi tous les « maintenant », mais bon, dont le contenu change en permanence Et il y a aussi, je pense que c'est ce que Jean-François Kervégan soulignait, le présent au sens de ce qui est actuel, au sens de ce qui existe en acte. Et ce qui existe en acte aujourd'hui, bon, par exemple, voilà, le processus de réalisation dans l'époque de Hegel, oui. Le processus de réalisation des idéaux révolutionnaires. Et ça, c'est un processus qui définit le présent, mais qui est un processus qui se développe dans le temps. Donc ce présent, il a une dimension atemporelle en quelque sorte, au sens où c'est ce qui est actuellement existant, et c'est ça que je dois chercher à comprendre. Et
pourquoi
que...
c'est intemporel ?
Ben, non, mais je veux dire qu'il est intemporel au sens où il n'est pas qualifié temporellement. Ce n'est pas un présent qui serait celui de l'instant présent qu'on distinguerait d'un futur immédiat ou d'un passé immédiat.
C'est ça qui va rester, c'est ça que vous voulez dire?
C'est ça qui se développe actuellement. Hein, donc, souvent, en fait, le concept de ce qui est présent, vorhanden, ce qui est donné, en fait, à nous, c'est quelque chose qui est présent, donc pas au sens de l'instant présent qui se distinguerait de l'instant passé, qui n'est plus maintenant, mais qui se distinguerait aussi d'un futur immédiat. Il englobe, en définitive, ces différentes dimensions que nous pouvons distinguer pour analyser précisément le développement de ce processus présent. Donc, par exemple, dans la situation de Hegel, c'est celui de l'actualisation de la Révolution française, ça veut dire que c'est celui d'un passé, la Révolution française. Mais c'est aussi celui d'un devenir qui est gros de l'avenir, parce que ces idéaux, eh bien, ils ne sont pas encore complètement réalisés. Ou peut-être qu'il se réalise d'une certaine manière qui va ouvrir à d'autres manières de se réaliser pour eux, puisque cette première forme de réalisation va se heurter à des obstacles, à faire apparaître sa dimension aporétique.
Il y a un philosophe, alors c'était peut-être pas uniquement ou même vraiment un spécialiste de Hegel, il proposait des études d'histoire de la philosophie, c'est Alexandre Coiré ou Coiré, selon les prononciations. Et en 1961, dans ses études d'histoire de la pensée philosophique, il disait que le maintenant, puisque vous avez employé cette expression, le maintenant du présent, chez Hegel, est dirigé, il a une direction. Et au fond, ma question, c'est est-ce que ce qu'il y a à penser dans le présent, ce n'est pas sa direction? Plus que le présent lui-même, il y a des choses qu'on va laisser de côté, le fugitif, disiez-vous. Mais Hegel fait partie de ces penseurs qui croient qu'il y a une direction. On peut ne pas le croire, hein, mais lui, il le croit. Vous seriez d'accord de dire les choses ainsi, Jean-François Kervégan?
Oui, tout à fait. Et je dirais même, dire que qu'il y a une direction dans le présent, cela implique deux choses. Premièrement, que le regard qu'on jette sur le présent et la description qu'on en donne a un caractère normatif. C'est ce qui permet à Hegel, par exemple, de dire, alors je reprends l'exemple fondamental qu'a évoqué Emmanuel Renaud, depuis la Révolution française, le monde a changé de face, c'est ce que dit notamment la préface de la Phénoménologie de l'esprit, et on ne peut rien là contre. Ceux qui, par exemple, voudraient, et dans toute son œuvre, il n'a cessé de polémiquer avec eux, s'imagine qu'on pourrait restaurer un état du monde antérieur à ce que cette révolution, avec toutes ces difficultés, ces drames, ces échecs, à ce que cette révolution a imposé, mis à l'ordre du jour, eh bien ceux-là sont condamnés à l'échec. Parce qu'il y a une tendance normative qu'il revient aux philosophes d'analyser, c'est pourquoi son regard sur le présent n'est pas purement descriptif, dire voilà, il se passe ça, mais c'est tenter de comprendre la rationalité du présent, c'est-à-dire aussi ce qui en lui dessine, non pas de manière déterministe, mais de manière directionnelle, oui. Ce que pourra être l'avenir.
Donc on touche là aussi au point que parfois on a du mal à comprendre chez Hegel. Si on n'aime pas la philosophie de l'histoire, si on n'y croit pas plus exactement, si on pense que c'est le bruit et la fureur, l'histoire seulement, on a du mal à comprendre que pour Hegel il y ait de la rationalité dans le passé, que le philosophe peut saisir, peut comprendre, et à partir de ce magnifique butin, si j'ose dire, il peut comprendre qu'il y a aussi une direction rationnelle du présent. Emmanuel Renaud, je crois que vous êtes d'accord que c'est ainsi que Hegel pense les choses. Êtes-vous aussi d'accord pour dire que c'est le point que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre chez Hegel. On n'est pas obligé de penser de cette façon.
Oui, tout à fait. Mais, et là, je crois qu'il est utile de chercher à de nouveau réinscrire Hegel dans son temps. Hein. Donc, c'est l'une de ses grandes thèses, d'ailleurs, que nul ne peut sauter au-dessus de son temps, que nous sommes tous fils de notre temps. Bon, enfant de notre temps, ça aurait été préférable, mais voilà, hein, c'est un fils de son temps aussi, un enfant de son temps. Il pense au masculin. Bon, mais donc, et cette époque qui est la sienne, c'est l'époque de l'émergence des philosophies de l'histoire, qui est aussi l'émergence de ce que Kozlek appelle l'expérience de l'histoire. Mmh. Hein, l'idée qu'en fait, on vit dans un monde qui est un monde pris dans une dynamique historique. Et là, ce qui est important aussi, c'est de cette idée que l'histoire peut se dire au singulier et au sens d'un processus global. Et d'après Kozlek, bon, cet historien des idées tout à fait fondamental, me semble-t-il, pour comprendre ce que ça veut dire qu'histoire et philosophie de l'histoire à l'époque, l'expérience de l'histoire, c'est l'expérience du progrès.
Et ça, il y croit. C'est un penseur du progrès. Ah bah ouais.
Mais tout
il n'a pas
de
doute majeur.
Après, on va chercher à penser le progrès de différentes manières, s'opposer quant à savoir si voilà les progrès sont univoques ou toujours accompagnés de régressions. Bon, il y a tout un espace de discussion qui se constitue au milieu du XVIIIe siècle et qui sera encore très actif au XIXe siècle, peut-être encore au XXe siècle, qui est fondé sur la présupposition que l'histoire, c'est le progrès. Et donc, évidemment, quand on pense les choses ainsi, toutes ces formules mystérieuses, la raison dans l'histoire, le progrès dans l'histoire apparaissent comme des formules qui sont, voilà, des formules qui visent à penser la spécificité d'un nouvel objet, l'histoire, qui est à la fois donc solidaire d'une nouvelle conception de l'histoire et qui définit un objet d'étude, hein, l'histoire en tant que processus unitaire, que les philosophies de l'histoire vont tenter d'analyser. Et effectivement, aujourd'hui, notre expérience de l'histoire, ce n'est plus celle du progrès.
Vous êtes d'accord, Jean-François Kervégan, que Hegel est devenu vraiment difficile pour notre temps ?
Manifestement, c'est le cas. Mais j'aimerais apporter une petite nuance à ce qu'a dit Emmanuel Renaud, parce que Léo Strauss, dans un livre
philosophe du XXe siècle,
dans un livre important et qui a eu un très large écho, droit naturel et histoire, explique que Hegel est l'incarnation et le promoteur de ce qu'il nomme avec beaucoup de pas de mépris, mais de méfiance, l'historicisme. Et donc, Hegel est bien sûr, à sa suite, Karl Marx, parce que pour Léo Strauss, il s'agit en fait de dénoncer le cours qu'a pris la pensée européenne depuis la modernité, mais en particulier depuis que l'histoire est devenue un thème central. Hegel est le fondateur de l'historicisme et par là même le père de toutes les erreurs fondamentales que nous avons commises et qui conduisent notamment au totalitarisme. À cette vision, on peut opposer que la pensée de l'histoire de Hegel n'est pas historiciste, au sens où, bien sûr, alors l'histoire est progrès, mais un progrès quand même, Hegel ne cesse de le dire, Hegel ce n'est pas Kant, c'est un progrès qui est un progrès dialectique, c'est-à-dire qui passe aussi par beaucoup de contradictions, de difficultés, dont beaucoup ne sont pas encore résolus, ce qui crée des tâches pour l'humanité à venir. Mmh. Mais ce progrès se fonde sur... Enfin, comment dire, il y a, du point de vue de Hegel, je crois, dans l'histoire même, des éléments de rationalité qui excèdent l'histoire. Qui excèdent l'histoire elle-même.
C'est Hegel l'esprit, c'est ce qu'il appelle l'esprit.
Ce qu'il appelle l'esprit, l'esprit qui s'objective et s'incarne dans l'histoire, mais qui, d'une certaine façon, outrepasse l'histoire. Hegel a écrit un livre qui s'appelle « La science de la logique », dans lequel, enfin, qui est un peu ça, si vous voulez, sa philosophie première ou sa métaphysique, dans lequel il aspire à rien moins qu'à définir les structures, alors pour le coup intemporelles, de la pensée. Mmh. Et c'est ces structures de la pensée qui viennent nourrir, innerver le monde, en quelque sorte, et que le philosophe peut mettre à profit pour analyser l'histoire, le présent, et y découvrir les traces d'un avenir possible.
Au fond, l'outil du philosophe qui est sa raison, il la trouve, cette chose-là, cette substance, pourrait-on peut-être dire, dans l'histoire. Donc il y a une capacité extraordinaire du philosophe à penser le passé, ça c'est sûr. Son vrai défi, c'est avec cet outil, quand il a compris la logique de l'histoire, de penser le maintenant, qui n'a pas encore été pensé, qui n'a d'ailleurs pas encore donné tout ce qu'il pouvait donner, c'est cela, Jean-François Guérigon ?
Oui, tout à fait.
Alors, on va justement analyser ce point de près, car c'est tout un vocabulaire, là aussi, chez Hegel, qui se met en place. L'idée qu'il y a un noyau dans le présent, sous l'écorce, le noyau de la rationalité. On trouve cette expression dans une page qui est par ailleurs est extrêmement riche, et vous allez nous éclairer tous les deux sur cette page de Hegel. Il s'agit de l'introduction des principes de la philosophie du droit, ce livre très important de 1820 qu'on va lire dans votre édition, votre traduction, Jean-François Guérigon.
Lorsque la réflexion, le sentiment ou quelque autre figure qu'aurait la conscience subjective regarde le présent comme quelque chose de vain, le toise de haut, en sait plus long que lui, la conscience se trouve elle-même dans le domaine du vain. Et parce qu'elle n'a d'effectivité que dans le présent, elle n'est ainsi elle-même que vanité. Réciproquement, lorsque l'idée passe pour n'être qu'une idée, qu'une représentation dans un acte d'opiné, la philosophie accorde au contraire le discernement de ce que rien n'est effectif, sinon l'idée. Il importe alors de connaître, dans l'apparence de ce qui est temporel et passager, la substance qui est immanente et l'éternel qui est présent. Car le rationnel, qui est synonyme de l'idée, en pénétrant en même temps en son effectivité dans l'existence externe, s'avance au milieu d'une richesse infinie de formes, de phénomènes et de configurations, et habille son noyau de l'écorce colorée dans laquelle la conscience loge d'abord. Cette écorce, seul le concept la perce pour trouver la pulsation interne et sentir encore son battement même dans les configurations externes.
Je ne sais pas si Hegel avait la voix profonde de Nicolas Berger qui lisait ce texte, ce grand texte de philosophie, un peu difficile, mais justement nous allons essayer de l'expliquer. Emmanuel Renaud, bon, il y a plusieurs points qu'on va soulever. Commençons par la dernière phrase. La rationalité, puisqu'il y croit, Hegel, habille son noyau dans le présent. Son noyau, elle l'habille de l'écorce colorée dans laquelle la conscience loge d'abord. Ce qui voudrait dire, si j'ai bien compris, qu'il y a dans le présent de l'écorce qu'il faut savoir enlever quand on est philosophe et un noyau à trouver. Ça, c'est... Comment le justifie-t-il ? Est-ce vrai ? Qu'est-ce que vous en pensez, Emmanuel Renaud ? Parce que, après tout, vous êtes hegeliens au sens de spécialiste de Hegel, mais vous pouvez avoir un avis aussi sur la part un peu d'arbitraire ou de croyance qui est à l'origine d'une pensée comme celle de Hegel ?
Oui. Oh ben moi non, je trouve pas ça totalement arbitraire. Je suis désolé, je vais vous décevoir. Je ne vais pas critiquer Hegel sur ce point, mais effectivement, il faudrait sans doute le critiquer sur beaucoup de points par ailleurs. En fait, ici, donc, il joue sur beaucoup d'idées fondamentales de sa philosophie en leur donnant l'allure d'images ou de métaphores. Donc là, quand en fait cette idée, donc, il oppose effectivement donc une écorce à, eh bien, des configurations externes qui serait caractérisé par une forme de déficit de réalité qui ne serait que apparence.
Donc là, c'est l'écorce qui est apparence. On est d'accord. L'écorce est colorée.
Voilà, c'est ça. Et donc là, en fait, on voit qu'il y a une opposition tout à fait classique de l'apparence et de l'essence. L'essence étant, comme classiquement depuis Platon et Aristote, définie comme la réalité vraie. Mais Hegel, et ça, c'est ça qu'il faut garder à l'esprit pour comprendre ce texte, critique en fait les conceptions du dualiste de l'apparence et de l'essence. Pour lui, donc, il ne faut pas croire qu'il y aurait une réalité essentielle qui serait cachée derrière des apparences.
C'est pas ça, le noyau, alors ?
Alors, bah si, mais justement, le noyau, ça lui sert à dire que, voilà, le noyau, c'est également ce qui va configurer l'écorce. Hein, je pense que c'est ça, le sens de la métaphore. Et le concept d'effectivité, qui apparaît un peu plus haut, eh bien, il précisément désigne l'unité de de l'intérieur et de l'extérieur, donc du noyau et de l'écorce, ou de l'essence et du phénomène. Donc, il cherche en fait ici à nous dire la chose suivante. Dans le présent se présente, voilà, mm-hmm. Je parlais du fait qu'on était un peu piégé avec le vocabulaire de la présence.
Au contraire, c'est très riche, c'est oui, ce qui est présent
se donne à nous. Se donne voilà. à nous actuellement, ouais, ouais. Le présent se donne à nous actuellement, comme une multiplicité de caractéristiques dont il faut parvenir à penser l'unité, si on veut comprendre ce qu'est véritablement le présent. Il ne faut pas chercher à remonter à un principe qui serait un principe, pour ainsi dire, abstrait, qui serait extérieur à cette configuration multiforme qui fait la diversité de nos expériences du présent, la diversité des savoirs qui sont les nôtres aujourd'hui. Hein, il faut parvenir à en donner une image qui soit assez unifiée, alors il dirait systématique, et c'est ça aussi l'idée chez lui, c'est la pensée systématique. Hein. C'est pas le simple concept, c'est la systématisation d'un ensemble de connaissances. Donc voilà, il y a ces idées qui sont là, mais en tout cas, il est clair qu'on ne peut pas comprendre immédiatement ce qui fait la nature de notre époque.
L'immédiat, c'est l'écorce. Ça, j'ai bien compris dans votre explication, pour reprendre ce mot de Hegel. Jean-François Kervégan, il faut donc décortiquer le présent pour trouver le noyau rationnel. Décortiquer, c'est le travail du philosophe. Il est possible, il peut aboutir. Il y a bel et bien un noyau rationnel dans le présent. Ça, Hegel y croit. Et vous ?
Je dirais que oui, je suis comme Emmanuel Renaud, j'ai du mal sur ce point à me séparer complètement de Hegel, parce que veut-il dire au fond ? Bon, moi je maintiens l'idée qu'il y a en quelque sorte une ambiguïté du présent, parce qu'il y a d'un côté le présent empirique, et d'un autre côté ce qu'on pourrait appeler le présent spéculatif. Et le travail du philosophe tel que le conçoit Hegel, c'est à... saisir le présent spéculatif, non pas au-delà, mais dans le présent empirique. Comme l'a dit Emmanuel Renaud, le concept d'effectivité, qui est très longuement analysé dans la science de la logique, désigne précisément ce que j'appellerais l'unité de l'être et de la raison d'être. Mm-hmm. C'est-à-dire lorsque la raison d'être n'est plus distante de ce qui est, mais... fait corps, pour ainsi dire, avec lui. Et le travail du philosophe, c'est d'apercevoir la raison d'être dans l'être. D'apercevoir que l'être qui se donne apparemment comme contingent empirique, que l'être en réalité est porteur d'une raison d'être, et cette raison d'être lui confère tout son sens. Pour reprendre l'exemple de la Révolution française que Emmanuel Renaud a évoqué et que j'ai repris aussi... Hegel a un point de vue sur la Révolution française qui est en gros le suivant. Bien sûr, la Révolution française a connu des excès, des drames, on y a commis des crimes. Hegel n'est pas un partisan de la terreur révolutionnaire. Mais il est convaincu, et je parle de Hegel, du fait que la Révolution française a mis à l'ordre du jour quelque chose qui devait l'être, une transformation radicale du monde humain,
oui.
Et que cela... on ne peut pas revenir en arrière. C'est le noyau.
Et c'est surtout c'est le noyau. Rationnel pour lui.
Absolument. Et qu'il ne peut plus en être autrement après en quelque sorte, la Révolution française a mis à l'ordre du jour un certain nombre de choses sur lesquelles les sociétés humaines ne pourront pas revenir, quand bien même elles le voudraient.
Emmanuel Renaud, vous voulez ajouter
On retrouve, je crois, donc dans cette question de... Est-ce que notre époque a un noyau rationnel ? Là, je crois que cette question, elle renvoie directement à ce dont on parlait juste avant, à savoir la question de l'expérience du progrès. Donc Hegel était convaincu que la Révolution française était constitutive d'un progrès irréversible et que notre modernité était marquée par des progrès irréversibles. Et aujourd'hui, je crois que c'est difficile d'en être convaincu. Et donc, moi, personnellement, donc là, puisque vous m'invitiez à critiquer Hegel, là, sur ce point-là, je pense pas que... Effectivement, je pense qu'il est plus difficile aujourd'hui de dire que le présent est fondamentalement rationnel, hein, parce qu'il est défini par cette rationalité du progrès. Et progrès, il faut préciser aussi que pour Hegel, c'est progrès de la liberté. Ah. Un progrès de la conscience de la liberté. Nous faisons une conscience, nous faisons des idées toujours plus rationnelles de la liberté, plus satisfaisantes, et du point de vue de l'effectuation, c'est-à-dire de la liberté. Donc est-ce que notre monde est un monde dans lequel nous sommes en permanence, qui est marqué par un progrès de la compréhension de la nature de la liberté et par des progrès de la liberté effective ? Bon, il y a toutes sortes de raisons d'en douter aujourd'hui.
Alors si je vous interroge là-dessus, c'est parce que comme ce noyau est rationnel, il dit que c'est une substance qui a à voir avec l'éternel. C'est dit plus haut dans le texte. Hein. Il importe de connaître dans l'apparence de ce qui est temporel et passager la substance qui est immanente et l'éternel qui est présent. Moi, ça me fait penser 43 ans plus tard à une formule bien connue de Baudelaire en 1863 où il définit l'art, la modernité en art, et il dit qu'il s'agit de tirer l'éternel du transitoire. Ça ressemble beaucoup. On ignore d'ailleurs si Baudelaire avait une dette là envers Hegel. Je suis pas sûre du tout. En tout cas, c'est une formule proche. Mais pour la beauté, on peut le comprendre très bien. Tirer l'éternel beau du transitoire, du conjoncturel. Il y a de la beauté partout. On peut la forger, la sortir de la mode, comme dit Baudelaire. Pour la rationalité, franchement, je trouve ça plus difficile. C'est-à-dire, est-ce que ce que sort le philosophe, ce n'est pas fondamentalement sa conviction. Voilà, ça c'est important. Le présent, c'est ça pour moi. Et on s'oppose à d'autres gens. On est malgré tout dans le registre de l'opinion. Pourquoi Hegel affirme-t-il qu'il y a une manière de penser le présent et pas 36, et qu'il y a bel et bien un fond rationnel que le philosophe doit trouver et que quiconque est rationnel trouvera?
Bon, là, je crois qu'on touche vraiment aussi, on l'a pas encore dit jusqu'à présent, mais à des points de la philosophie hegelienne qui sont l'objet de conflits d'interprétation depuis la mort de Hegel. Hein. Bon, dès la mort de Hegel ou peu de temps après, on va pas rentrer trop dans le détail. Une gauche hegelienne s'est opposée à une droite hegelienne, et la gauche elle-même a donné lieu à l'apparition des jeunes hegeliens, dont le plus célèbre est Marx. Et donc la question de savoir si Hegel est un penseur métaphysique ou non, si c'est quelqu'un qui donne un primat de l'histoire ou au contraire a une forme de rationalité éternelle. Oui. Ça, ce sont des questions qui se posent depuis l'émergence de l'hégélianisme au sens d'une école hégélienne. Donc, ça, c'est le premier point. Et là, l'éternel qui est présent, c'est typiquement la formule qui peut cristalliser tous les débats d'interprétation. Et on peut, je crois, l'interpréter en deux sens. Hein. Il y a une dimension d'oxymore hein, dans cette formulation, l'éternel présent. Donc, quelle est la signification de cette contradiction apparente? Est-ce que Hegel nous dit qu'il faut d'abord penser un éternel pour comprendre ce qui est rationnel dans le présent? Option, disons, droite hegelienne, selon on pourrait dire, ou alors est-ce qu'il est en train de nous dire qu'il n'y a pas d'autre éternel pensable que celui qui est pensable à partir du présent? Donc qu'est-ce que ça signifierait, cette deuxième option? Puisque là, je donne des alternatives un peu abstraites. Bon, ça veut dire quoi? Voilà, ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi Sophocle continue à nous parler. Ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi Euclide continue à être pour nous définir un modèle de rationalité géométrique démonstrative. C'est aussi de comprendre pourquoi il y a des choses qui ne nous parlent. C'est aussi de se donner la possibilité de comprendre qu'il y a des choses de la philosophie de Platon qui ne nous parlent plus du tout. Hein, parce que dans cette vérité qui est celle, par exemple, de la philosophie platonicienne, il y a des choses qui sont périmées, qui ne peuvent pas être réchauffées. Vous voyez, là, c'est une manière de déplacer, en fait, le problème. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai besoin d'une philosophie de l'histoire comme progrès de la liberté pour comprendre qu'est-ce qui a pu pousser les peuples à différentes étapes de l'histoire de l'humanité à s'opposer à des formes de domination. En exigeant de la liberté. Donc il y a quelque chose d'éternel qui reste présent en ce sens. Hein, c'est le fait que l'esprit se définit essentiellement par la liberté, d'après Hegel. Hein, et que l'esprit, c'est-à-dire ce qui est proprement humain chez les humains, bon, pour traduire ces formules de manière prosaïque, se définit par une recherche de liberté. Et ça, c'est éternellement présent.
Le présent est-il toujours perdu? C'est un peu notre question toute la semaine, hein, en tout cas dans nos quatre épisodes consacrés au présent. Ce matin, nous parlons de la pensée du présent du philosophe Hegel, une pensée difficile, mais extrêmement stimulante. Et je suis en compagnie d'excellents spécialistes de l'œuvre de Hegel, les philosophes Jean-François Kervégan et Emmanuel Renaud. J'ai encore une question sur l'écorce et le noyau, mais ça, on tourne tout le temps autour du même problème, là. Donc, Jean-François Kervégan pourrait vous répondre à d'autres choses, là, qui ont été dites. Le texte poursuit, en vérité, dans ce texte qui ouvre les principes de la philosophie du droit. Et il dit, après, Hegel dit, il faut pas trop s'intéresser à l'écorce. Il faut quand même s'y intéresser, parce que sinon, on ne pourra pas décortiquer et sortir le noyau. Mais quand même, il met des bémols que je trouve passionnants et il dit, je cite, « Platon, par exemple, aurait pu s'abstenir de recommander aux nourrices de ne jamais laisser les enfants sans mouvement et donc de les bercer toujours dans leurs bras. Fichte aurait pu s'abstenir de s'intéresser à la police des passeports, puisqu'effectivement, Fichte s'y est intéressé, il avait des idées pour l'améliorer. » C'est très complexe, ça veut dire que les critiques qui ont été faites à Hegel disant que celui-ci avait tendance un peu à négliger le conjoncturel, eh ben, elles sont assez fondées. Il ne faut pas s'égarer non plus dans l'écorce. Il faut s'y intéresser, mais point trop. Qu'est-ce que ça soulève, suscite comme commentaire chez vous, Jean-François Kervégan, ces précautions?
Alors, d'abord, une petite précision, je reviens en arrière. Dans la formule « l'éternel qui est présent », le mot « éternel » est écrit avec une minuscule. Donc, pour éviter la confusion, c'est pas l'éternel au sens, en tout cas pas immédiatement, Dieu, etc. C'est ce qui est éternel et non pas un être éternel. Bon, ça, alors pour répondre à votre question, je crois que justement on a parlé, Emmanuel Renaud et vous ensuite avez parlé de Platon. Eh bien, la manière dont Hegel lit Platon est tout à fait caractéristique de sa façon de concevoir la tâche du philosophe par rapport au présent. À deux reprises dans les principes de la philosophie du droit et également dans ses cours sur la philosophie de l'histoire, il évoque la République de Platon. Et il dit la chose suivante, on a reproché des tas de choses à la République de Platon, c'est horrible, le communisme des femmes, les enfants, etc. C'est, bon, le terme n'existe pas encore à l'époque, mais c'est totalitaire, etc. Mais, dit-il, en réalité, ceux qui disent ça, ils n'ont rien compris. Parce que lorsque Platon, dans la République, propose ses dispositions, par exemple le communisme des femmes, en réalité, il met le doigt sur ce qui était la faille fondamentale de la cité grecque et qui allait la conduire à sa perte, à savoir l'absence de la liberté individuelle. Et par conséquent, c'est en tout cas la lecture que fait Hegel, loin d'être un fantasme totalitaire, la République de Platon est un diagnostic d'époque dans lequel Platon nous apprend et à qui savait le lire, apprenait à ses contemporains ce qui allait immanquablement conduire la polis grecque, la cité grecque, à sa perte.
Donc les grands philosophes sont des penseurs de leur présent et parlent à leur présent. C'est ça que j'entends dans votre analyse. Mais il ne faut pas qu'ils s'intéressent trop aux détails. Franchement, la question des nourrices, c'est pas inintéressant dans le présent. Comment on élève les enfants? Quand on voit tous les travaux sur les nourrissons, il est gonflé quand même, Hegel, de dire, voilà, ça n'a aucun intérêt. Les passeports, ça n'a aucun intérêt. Je vais aller au bout de l'affaire. Ne soyez pas trop dans la curiosité journalistique. Soyez des philosophes du présent. Cette opposition un peu rapide, les jeunes hegeliens de gauche, dont vous avez parlé précédemment, Emmanuel Renaud, le lui reprocheront. Il sait un peu trop vite ce qui est important et ce qui ne l'est pas dans le présent.
Oui, disons qu'il présuppose qu'on peut distinguer clairement entre ce qui est rationnel et ce qui ne l'est pas. Donc il présuppose un principe d'exclusion du non-intéressant, c'est certain. Mais il s'intéresse à l'actualité au sens journalistique aussi. Donc il écrit des articles sur les réformes législatives en cours.
Il lit le journal.
Et voilà, et donc il y a cette fameuse formule qui qui lui attribue l'idée donc que la lecture quotidienne du journal et la prière réaliste du matin,
dans l'aphorisme, un aphorisme de la période de Iéna, en effet. Ouais. La lecture du journal le matin est comme la prière du matin du réaliste. Donc c'est important de lire le journal, mais c'est mieux d'être la chouette de Wiener, nuit pour repenser le jour, non ?
Justement, c'est ça, c'est compliqué de concevoir les deux à la fois, mais en fait Hegel pense qu'on peut le faire et donc toute sa philosophie est portée aussi par l'exigence d'une philosophie concrète, hein. Le concret, c'est le savoir philosophique, seule la philosophie peut véritablement reconstituer la réalité dans toutes ses dimensions, dans l'unité d'une multiplicité de déterminations qui définit ce qui est concret au sens fort et pas simplement au sens de ce qui est donné à la perception individuelle.
Alors, il sait ce qui compte dans le présent. Vous avez beaucoup évoqué la Révolution française, qui était une vraie passion pour Hegel. Vous le dites tout le temps. Hein. Il considérait que c'était une chose fondamentale qu'il fallait encore et encore penser. Et puis, il y a l'Amérique. Et l'Amérique, c'est vraiment... Alors, est-ce que c'est l'écorce ? Est-ce que c'est le noyau du présent ? Y a-t-il quelque chose à décortiquer dans l'Amérique qui a été découverte au début des temps modernes, des modern times, comme disaient les Anglais, comme lui est en train de le dire aussi, Hegel. Voici un extrait de ses cours, en fait, qui ont été ensuite mis par écrit, les cours entre 1822 et 1830, alors qu'il était professeur à Berlin, et tout cela a été recueilli dans le volume « La raison dans l'histoire ». Écoutez.
L'Amérique est le pays de l'avenir, où dans les temps futurs se manifestera, dans l'antagonisme peut-être de l'Amérique du Nord avec l'Amérique du Sud, la gravité de l'histoire universelle. C'est un pays de rêve pour tous ceux que lasse le bric-à-brac historique de la vieille Europe. Napoléon aurait dit « Cette vieille Europe m'ennuie ». L'Amérique doit se séparer du sol sur lequel s'est passée jusqu'ici l'histoire universelle. Ce qui y est arrivé jusqu'ici n'est que l'écho du vieux monde, et l'expression d'une vie étrangère. Or, comme pays de l'avenir, elle ne nous intéresse pas ici. La philosophie ne s'occupe pas de prophéties. Sous le rapport de l'histoire, nous avons affaire à ce qui a été et à ce qui est. Mais en philosophie, il ne s'agit pas seulement de ce qui a été ou de ce qui devra être, mais de ce qui est et qui est éternellement. Il s'agit de la raison, et avec elle, nous avons assez de travail.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Je ne suis pas sûre de tout comprendre dans ce texte de Hegel. Jean-François Kervégan, l'Amérique, c'est très important, il nous le dit, mais attention, ce n'est pas comme pays de l'avenir qu'elle m'intéresse, hein, qu'elle nous intéresse, c'est quoi ? C'est ce qui se joue à travers elle, quelque chose d'éternel qui a à voir avec la raison, mais quoi ? Pouvez-vous m'expliquer un petit peu, Jean-François Kervégan, ce que veut dire Hegel, là ?
Je crois que ce qui, on peut, pour le comprendre, établir, j'avais essayé de faire ça jadis, un parallèle entre le diagnostic de Tocqueville sur l'Amérique et celui de Hegel. Mmh. Puisqu'ils disent le contraire, l'un de l'autre. Bon, alors, Hegel n'a pas pu, évidemment, lire la démocratie en Amérique.
Une dizaine d'après.
Et Tocqueville a vaguement entendu parler de Hegel, mais enfin bon. Tocqueville, c'est devenu célèbre, dit voilà, je m'intéresse à l'Amérique parce que l'Amérique nous dit ce que, donc les États-Unis en fait, nous dit ce que le monde va être, il dessine l'avenir démocratique, et on sait que pour Tocqueville, cet avenir n'est pas folichon, mais enfin, c'est comme ça, dessine l'avenir de l'humanité. Et Hegel, dans ce texte, dit exactement le contraire. Il dit l'Amérique est peut-être le pays de l'avenir, ça c'est la thèse de Tocqueville, mais pour cette raison, elle ne nous intéresse pas. Elle ne nous intéresse pas.
Et vous comprenez ce qu'il veut dire, là ?
Comment ?
Vous comprenez ce qu'il veut dire ?
Je crois que Hegel conçoit l'Amérique, c'est-à-dire les États-Unis, comme une sorte de d'exportation de la civilisation européenne. Hegel est convaincu, alors là, c'est peut-être une limite, c'est évidemment une limite de sa pensée, que l'Europe représente, que l'Europe moderne post-révolutionnaire représente en quelque sorte, là, ben oui, on peut dire la fin de l'histoire.
Et pourtant, elle ennuie Napoléon,
qu'un morceau
il le dit.
D'Europe,
elle est très ennuyeuse, la vieille Europe m'ennuie, dit Napoléon. Il le cite, il a l'air d'être d'accord.
Napoléon aurait dit cette vieille Europe m'ennuie. Oui, mais alors, ce qui y est arrivé jusqu'ici n'est que l'écho du vieux monde et l'expression d'une vie étrangère. Or, comme pays de l'avenir, elle ne nous intéresse pas. C'est-à-dire que, fondamentalement, et la philosophie de l'histoire de Hegel ne se termine pas sur l'Amérique, elle se termine sur l'Europe et les difficultés que l'Europe aura à résoudre dans les générations à venir, en l'occurrence les difficultés liées à la gestion de la société post-révolutionnaire. Quel type de politique sera à même d'être à la hauteur de la société qui s'est mise en place à partir notamment de la Révolution française. Voilà ce qui reste à décider. Et l'avenir, en quelque sorte, l'Amérique, en quelque sorte, eh bien, reprendra cette solution que l'Europe aura définie.
Vous êtes d'accord, Emmanuel Renaud, que c'est clair, cette histoire d'Amérique qui est à la fois un événement important, un ensemble, un processus qui se joue là dans un nouveau monde qui est très important pour Hegel. Et en même temps, cette idée de Hegel que quelque chose n'est pas important, c'est-à-dire ce que va devenir ce pays concrètement, quelque chose d'autre est bien plus important dans ce présent. Alors, je vous redis, moi je ne comprends pas très bien ce qu'il veut dire.
Qu'est-ce qui est important ? Moi je ne le lis pas exactement comme ça. En fait, moi ce que je comprends ici, c'est deux choses. Premièrement, nous sommes dans une philosophie de l'histoire dans ce texte, et la philosophie de l'histoire, elle ne peut pas traiter de l'avenir. Elle peut traiter simplement du passé et de ses prolongements présents. Ça, c'est, disons, une définition. Donc, ne nous intéresse pas ici, c'est dans le cadre d'une philosophie de l'histoire. Donc, de ce point de vue-là, en fait, il a une conception assez classique de l'histoire comme étant liée au passé, même s'il lui donne un rôle fondamental au présent, en fait, comme résultat de ce passé et point de vue à partir duquel on peut comprendre la rationalité du passé. Mmh. Ça, c'est ce premier point. Ensuite, il y a la critique de l'utopisme, disons, hein, ou du devoir être abstrait. La seule chose que l'on puisse connaître rationnellement, c'est ce qui a lieu et ce qui se produit aujourd'hui. Donc le philosophe doit...
Ce qui est présent, dans tous les sens du mot. C'est ça qui est très joli.
On ne peut pas connaître le futur. Ça, c'est pas possible. Il n'y a pas de prévision du futur. Certains philosophes pensaient que la tâche de la philosophie était de prévoir des développements futurs. Ça, pour Hegel, c'est impossible. Mais il me semble néanmoins qu'il souligne quand même la possibilité, ici, qui reste une possibilité, parce qu'il ne veut pas trancher, qu'il se passe quelque chose de significatif dans cette histoire future de l'Amérique, puisqu'il dit bien « l'Amérique doit se séparer du sol sur lequel s'est passée jusqu'ici l'histoire universelle ». Donc comme si, en fait, elle ne faisait pas qu'hériter de l'histoire européenne, mais qu'elle devait s'en séparer. Et donc, je pense que c'est un point important parce que ça permet de relativiser des mythes qui sont fréquemment utilisés pour caractériser les positions de Hegel de manière dépréciative. Hegel, philosophe de la Restauration, qui pense que, en fait, la monarchie prussienne est le sommet de l'histoire mondiale, qu'il n'y a rien de plus rationnel possible, ni d'envisageable à l'avenir que la monarchie prussienne. Alors, Hegel, philosophe de la fin de l'histoire. L'histoire est terminée. Elle est terminée avec nous parce que nous vivons dans le présent le plus rationnel qui soit. Alors, elle est finie, l'histoire, au sens du discours sur le présent et le passé qu'on peut tenir aujourd'hui. Hein, donc, il faut s'abstenir de parler d'autre chose. Hein, donc, en ce sens, oui, mais vous voyez, Hegel est quand même, et c'est un point important, à la fois un penseur qui est tout à fait conscient des contradictions du présent. Ça, c'est un point que Jean-François Carvégan a rappelé à différentes reprises aujourd'hui. Mais il est également conscient que, eh bien, voilà, l'histoire va continuer.
Et c'est plus que cela encore, puisque ce présent au sens temporel, ce qui est présent, et ce qui est présent au sens spatial, la présence, c'est ça la richesse du terme, ce qui est posé, dit-il aussi parfois, devant la conscience, c'est ça qui compte, et c'est là que quelque chose qui concerne la raison va se jouer, et que le philosophe doit réussir à penser. Il nous dit non pas que c'est la fin, au moment où il écrit de l'histoire, mais que c'est un moment de rupture extraordinaire. Dans la phénoménologie de l'esprit de 1807, il écrit « Il n'est pas difficile de voir que notre temps est un temps de la naissance et du passage à une nouvelle période. » Il y a un sens du nouveau. Bon, cela dit, je voudrais quand même vous demander, vous ne trouvez pas que ça fait partie des travers de beaucoup de gens, et notamment des philosophes quand ils pensent le présent, de dire « C'est extraordinaire, mon prénom. Il s'y passe des choses fabuleuses, c'est une période tout à fait neuve. C'est aussi une tendance... Enfin, il vaut mieux être né à une période riche qu'à une période pauvre. Et quand on pense au présent, souvent on dit c'est extraordinaire. C'est une rupture. Qu'est-ce qui lui permet de le dire ? Après tout, la découverte de l'Amérique, c'était bien plus une rupture que... Et la Révolution française elle-même, il écrit quelques années après. La rupture a eu lieu.
Alors, je ne crois pas que pour Hegel... Bon, la découverte de l'Amérique, pour Hegel, ce n'est pas une rupture aussi fondamentale. Parce qu'il y a un terme qu'on a peu utilisé depuis tout à l'heure. Emmanuel Renaud l'a évoqué dans son avant-dernière intervention, qui est fondamental pour Hegel, la liberté. Ce pourquoi le monde change de face, si j'ose dire, avec la Révolution française, c'est parce que pour la première fois, la question de la réalisation effective, on va dire institutionnelle, politique de la liberté, est devenue à l'ordre du jour. Et pour Hegel, c'est ça qui est fondamental. Notre temps est un temps de la naissance et de passage à une nouvelle période. C'est le temps où la question, où la liberté est devenue le problème philosophique, pardon, le problème politique, qu'il revient à l'humanité de résoudre. Et ce problème, on ne peut pas le mettre de côté. Il est à l'ordre du jour et il le restera pour l'avenir. Pour le reste, qu'est-ce que ça donnera concrètement ? La philosophie ne s'occupe pas de prophétie, le texte qui a été lu. Et ça, je crois que c'est important de conserver en mémoire ce
dernier jugement. Vous pensez qu'aujourd'hui, on peut encore dire que notre période... notre présent est plein de nouveaux, mais d'un nouveau qui a à voir avec la liberté ? Ou est-ce que vous pensez que, contrairement au progrès hegélien, ce sont des choses moins joyeuses qui sont en cours ?
Oui, ça je pense, effectivement, enfin, on l'a déjà dit, oui, moi je ne suis pas particulièrement enthousiasmé par l'état du monde aujourd'hui, mais bon, je pense pas plus que Jean-François Kervégor, j'imagine, et il serait intéressant de... Et on imagine aussi que Hegel, vivant dans notre temps, n'aurait sans doute pas dit exactement la même chose. Bon, peu importe, à vrai dire, mais pour revenir, si on a encore une seconde, pour revenir à cette idée que les philosophes sont obsédés par le nouveau, on pourrait dire par la rupture, par ce qui fait événement, par ce qui est absolument inédit. Hegel n'est pas du tout dans ce type d'approche du présent, puisque précisément, il essaye de penser le présent comme
le
résultat d'un processus. Oui. Et justement, c'est pour ça, peut-être que cette dimension de processus est importante, puisque l'idée de processus permet tout à la fois de penser une continuité et de la nouveauté. Et l'enjeu, c'est donc ne pas absolutiser la nouveauté, la discontinuité, si l'on préfère, ne pas plus absolutiser la continuité, mais tenter de dépasser ce dualisme. Voilà, c'est l'un des enjeux des philosophies processuelles et plus généralement, ce dépassement des dualismes de la philosophie hegélienne.
Vous entendez Right Here, Right Now de Fatboy Slim. 1998. Merci beaucoup à tous les deux, Jean-François Kervégan et Emmanuel Renaud, pour vos éclairages de Hegel, de sa pensée de l'histoire et du présent. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, Frédéric Worms réfléchit au jeu, J-E-U-X. Voici le pourquoi du comment.
Comment le jeu échappe-t-il au réel? Si vous observez un enfant, ou évidemment aussi un adulte, ou des adultes, car il y a beaucoup de jeux collectifs, si vous observez donc un être humain ou plusieurs êtres humains en train de jouer, vous allez être frappé, évidemment, comme tous les psychologues et comme tous les psychiatres, et aussi comme tous les citoyens et les sujets humains, vous allez être frappé par deux choses, par le grand sérieux du jeu, mais en même temps par le fait que le jeu se mette à côté de la réalité au sens précis de ce mot, c'est-à-dire au sens de ce qui concerne notre existence même, de ce qui peut venir soutenir ou menacer notre existence elle-même. Le jeu crée un espace parallèle, mais un espace extrêmement sérieux qui se met en marge du réel, mais qui exige de nous une concentration presque aussi grande que les activités les plus vitales. C'est ce qui fait d'ailleurs que, parfois, c'est un peu poreux. Nous pouvons, par exemple, nous avons besoin de manger pour vivre, mais la cuisine peut devenir un jeu, peut devenir un plaisir. Évidemment, nous ne sommes pas en danger de mourir de faim. À ce moment-là, ça n'est plus du tout du jeu, et l'urgence est incompatible avec le jeu. Le jeu a donc comme condition, finalement, d'échapper au réel. Mais il faut aller un peu plus loin, dans plusieurs directions. D'abord parce que, évidemment, ça implique des risques. Il faut parfois se reconnecter au réel, redevenir sérieux, et d'un autre côté, le réel peut refaire effraction dans le jeu, comme par exemple... Si une rivalité qui est ritualisée par le jeu, mettons dans un match de football, bah redevient une vraie bagarre sur le terrain et qu'à ce moment-là, ça ne plaisante plus, comme on le dit parfois. Il y a encore une autre dimension très importante que l'on oublie et qui est au cœur du livre de Donald Winnicott, « Jeu et réalité », et au cœur aussi de ce que Freud avait éprouvé sur le jeu, la manière dont les enfants jouent. Ce n'est pas seulement de se mettre en marge du réel et aussi d'éprouver ce risque que le réel revienne ou qu'on s'en coupe trop radicalement dans le jeu, c'est aussi le fait que le jeu, pour ainsi dire, joue avec la réalité. Que l'enfant qui joue n'est pas seulement en train de se mettre en marge de la vie et de la réalité, il joue avec ce qu'il y a de plus difficile dans la réalité. Par le jeu, l'enfant et le sujet humain essayent aussi de maîtriser ce qu'il y a de plus dur dans la vie, c'est-à-dire par exemple l'amour et la mort. Le jeu est aussi une façon de maîtriser le réel qui est par définition ce qui est presque impensable, ce qui nous prend de l'extérieur. La séparation, dit Freud par exemple, avec l'être aimé, avec le parent, avec la mère, l'enfant joue avec cette séparation vitale. Et pour Freud, le jeu de la pelote du petit garçon qui lançait au loin un objet et qui le rattrapait, c'était une manière de maîtriser la séparation et la relation avec la mère. Les êtres humains, donc, ne jouent pas seulement pour échapper au réel, mais aussi pour l'affronter. Et c'est l'une des dimensions fondamentales du rapport du jeu au réel. Mais il ne faut pas oublier les deux autres dimensions que j'évoquais en commençant. Le jeu, parfois, ne doit pas nous faire oublier le sérieux de l'existence. Décider pour de vrai, ça n'est pas comme jouer. Vous pouvez lancer des dés, mais parfois, il faut prendre des décisions qui ont des conséquences vitales sur les autres. Alors là, il faut que le réel se distingue du jeu. Et inversement, quand le réel revient dans le jeu par la forme, par exemple, de la guerre, alors le jeu nous apprend à maîtriser les forces négatives, mais parfois aussi, elles font retour. Et alors, comment faire ?
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Jean-Guilain Meige. Elle a été préparée en particulier par Carla Michel et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Fulpin, Philippine de Bélois, Chaïma Giboire et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité!